Chouette, c'est bientôt la rentrée. C'est demain ou après-demain pour les enfants, mais pour nous aussi un petit peu. Hein. On suit un petit peu le rythme scolaire. Nous poursuivons ce matin une série de prédications sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous lisons dans la Bible. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Les Corinthiens ont écrit à Paul. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Bing. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas à l'autre, vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi. Mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce. L'un le mariage, l'autre célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le dissimuler? Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire? Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet, mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi, un libéré du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été racheté, alors ne devenez pas esclave des hommes. Donc, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Quel texte pour un dimanche matin. Je vous sens un peu dubitatif. Mais c'est ça les séries de textes sur les livres. Il m'arrive dans des conversations que j'ai pu avoir au bord d'un terrain de foot quand mes garçons jouaient au foot, ou au bord de dans une salle de gym quand ma fille faisait de la gym, ou à Cannes Université quand je prenais des cours d'italien, que on en arrive à la question fatidique, ou que les personnes arrivent à la question fatidique. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, je réponds, j'essaye d'éluder la question, mais je suis pasteur. J'aimais bien, j'ai tapé pasteur, j'ai trouvé cette photo, je trouvais qu'il avait... Et quand je le dis, il y a quelques secondes de silence. Pasteur, on sent que ça cogite. Là. Et deux fois sur trois, la personne me dit tout de go, « Ah, c'est bien, vous pouvez vous marier. » Alors, c'est vrai, c'est cool. Je peux me marier, et je l'ai fait d'ailleurs. Et je souris, même si je trouve que c'est un peu réducteur de la fonction de pasteur. Le pasteur, il peut se marier. Bon, il y a peut-être plus que ça, mais c'est ce qui vient à l'esprit des gens, et je sais qu'ils pensent aux prêtres de l'Église catholique, en disant, les pauvres, ils sont seuls, les pasteurs, eux, ils peuvent se marier au moins. Alors, il y a de la compassion dans cet élan, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte aussi d'idéalisation du mariage ou de la vie en couple, et comme une grande incompréhension par rapport au célibat. C'est vrai que le problème vient d'une obligation faite aux prêtres de l'Église catholique de vivre le célibat, des vœux de chasteté qui semblent venir d'un autre millénaire. Mais est-ce pour autant qu'il faut disqualifier d'emblée le célibat ? Et pas seulement celui des prêtres. Il me semble qu'on est aujourd'hui dans une sorte de déséquilibre, idéalisation de la relation de couple et dévalorisation du célibat. Et on vivait un peu la même chose à Corinthe, au 1er siècle, après Jésus-Christ, dans cette église de première génération de chrétiens. On est là, Jésus est mort et ressuscité, nous croyons, il y a une trentaine d'années seulement, c'est incroyable. Et tout pose question. Comment vivre en tant que chrétien dans ce monde qui ne l'est pas ? Et tout pose question et tout pose problème. Ce n'est pas facile d'être chrétien à Corinthe dans les années 50, comme il n'est pas facile d'être chrétien ici dans les années 2020. Et oui, le temps passe. Et si nous faisons une série de cette lettre que Paul adresse à ses chrétiens, c'est bien pour en tirer profit pour nous aujourd'hui, pour l'actualiser, parce que nous pensons, je pense, que la parole de Dieu est toujours un souffle fragile, est toujours pertinente et actuelle pour nous aujourd'hui. Alors je rappelle très rapidement les épisodes précédents. Quand Dieu nous appelle à être saint, Christ est-il divisé ? Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Dieu serait-il fou à louer la folie de Dieu dans son amour pour nous, dans l'évangile, la bonne nouvelle ? Et puis aussi, attention aux bâtisseurs ou avis aux bâtisseurs, comment on bâtit sa vie ? Comment on bâtit sa vie spirituelle ? Le cœur du serviteur, être entre fragilité, obéissance et persévérance, le mot est parti, Dominique il avait apporté une prédication là-dessus, et de même que pour le chapitre 5, le disciple et la discipline. Et puis, on a vu la semaine dernière l'histoire du corps qui a ses raisons. Alors, avant d'appliquer à la situation, il faut toujours rappeler le contexte. C'est une règle. Et à Corinthe, le contexte est assez particulier, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, c'est une ville de grande tolérance, en particulier à la débauche. Le verbe « se corinthianiser » est connu dans la région pour dire « se débaucher ». Tiens, je vais là-bas, je vais me corinthianiser. Je vais m'encanailler, comme je cherchais le mot la semaine dernière. Alors, c'est dire la réputation de la ville de Corinthe. Et quand, au chapitre 6, Paul dit « tout est permis », il cite les libertaires ou les libertins de l'église de Corinthe, à ne pas confondre avec les libertariens aujourd'hui, comme Elon Musk, paraît-il, tout est permis. Enfin, c'est un peu quand même la même chose, tout est permis. Qui disent « je fais tout ce que je veux de mon corps est à moi, j'en fais tout ce que je veux ». Et Paul dit « oui, 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 certes, tout est permis, gars. La liberté est importante, toutefois, tout n'est pas utile ». Le corps a ses raisons, que la raison de Dieu, ou que l'amour de Dieu, connaît. Ça, c'était dimanche dernier, et aujourd'hui, voilà, le titre c'est « Lit simple ou lit double ». Il faut savoir qu'il y avait une autre tendance à l'église de Corinthe à l'époque, à l'opposé des libertins, il y avait ce qu'on peut appeler les ascètes, un courant ascétique. Alors, c'est un mot qui est un peu désuet maintenant, mais la définition du Robert, du petit Robert, comme on disait à l'époque, hein, qui a épousé Larousse, l'ascèse, ensemble d'exercices physiques et moraux qui tentent à l'affranchissement, la libération de l'esprit par le mépris du corps. Et un ascète, c'est quelqu'un qui pratique l'ascétisme, merci, mais qui s'impose par piété des exercices de pénitence, des privations, des mortifications du corps. Alors je ne sais pas si ça attire vraiment aujourd'hui, mais à l'époque ça attirait. Il y avait des ascètes, il y avait un courant ascétique dans l'Église. On remarque dans la définition le mépris du corps, qui peut jouer de deux manières différentes. Ceux qui méprisent leur corps et qui se disent « le corps n'est rien, donc je fais n'importe quoi avec, tout m'est permis ». Et les autres, les ascètes aussi, qui le méprisent également, mais qui jouent sur la répression, la privation, la mortification. Le corps n'est pas assez spirituel, il ne l'est pas du tout, il faudra donc, pour atteindre à la sainteté, ne rien faire avec, de le priver de toute activité ou de se priver de toute activité liée au corps. L'ascétisme à Corinthe. Et c'est pour cela que certains à Corinthe disent « il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme ». C'est une citation de certains membres de l'église de Corinthe, et Paul va faire comme il a l'habitude de faire, il va dire « oui, certes, c'est un rhétoricien, il concède pour pouvoir passer sur une vérité, on va dire, supérieure ». Et il va développer une argumentation que nous croyons inspirée par l'Esprit pour rétablir l'équilibre chez ces chrétiens corinthiens qui sont prêts à partir dans les trucs les plus extrêmes d'un côté comme de l'autre. La liberté totale, sans entrave, sans limite, et l'ascétisme le plus pur. Alors, les tenants de l'ascétisme dans l'église de Corinthe, donc des chrétiens, disent qu'il n'est pas bon de ne pas toucher de femmes, et il faut savoir que ceux qui disent cela, de ne pas toucher de femmes, sont déjà mariés, et qu'ils veulent vivre l'ascétisme dans leur mariage. Certains même ont dans l'idée de se séparer de leur femme pour vivre l'ascétisme, pour vivre vraiment dans la sainteté, loin de leur conjoint. Ça va loin. Il est utile de savoir ce contexte pour bien comprendre l'argumentation de Paul et de ne pas tomber nous-mêmes dans des affirmations extrêmes que justement Paul veut dénoncer. Alors le titre... je l'ai déjà dit, et lit simple ou lit double, mariage et célibat selon 1 Corinthiens 7. Alors, je ne sais pas si vous avez une page Facebook ou un profil Facebook, moi j'en ai pas, je profite de celui de ma femme pour avoir des nouvelles, mais il y avait, je pense, il faut marquer son identité ou statut. Elle ne veut pas me répondre. Alors, il y a célibataire, en couple, et dernièrement, ils ont rajouté « c'est compliqué ». Et parfois, c'est vrai, c'est compliqué. J'ai lu quelques commentaires bibliques sur 1 Corinthiens qui disait « aucun texte du Nouveau Testament n'a fait l'objet d'autant de malentendus que celui-ci, que 1 Corinthiens 7 ». C'est donc avec une certaine crainte que nous nous avançons dans le commentaire de ce chapitre. Et je vous propose, pour ne pas trop nous disperser, et je pense que ça va cerner la pensée de ce passage, de trois affirmations. Il est bon de se marier. Dans un premier temps, Paul va répondre à cette pensée ascétique qu'il serait bon de ne pas toucher de femme ni sa femme. Vous l'avez compris, il répond encore une fois par un oui, mais, ou plus simplement, oui, cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, et qu'au sein de ce mariage, que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Alors, ça semble être une défense du mariage un petit peu minimaliste quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le mariage vu comme un garde-fou pour l'immoralité. Il vaut mieux se marier, il le dira plus tard, il vaut mieux se marier que de brûler, que de se consumer intérieurement. Le mariage pour éteindre l'incendie intérieur, enfin plus qu'intérieur, ce n'est pas très romantique. Mais il faut encore une fois rappeler le contexte, celui des ascètes qui prétendent pouvoir maîtriser tous les désirs de leur propre corps et qui finissent par se croire supérieurs dans la maîtrise d'eux-mêmes, dans leur ascétisme. Paul se veut réaliste. Et à tous ceux qui ont de hautes prétentions de maîtrise, attention, la réalité peut vous rattraper, la réalité peut vous faire tomber de haut. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Il vaut mieux se marier que de brûler et de tomber dans l'immoralité, c'est ce que dit Paul. Et quand on était dans le groupe de jeunes de Bruxelles, quand on était tous cette bande de garçons, entre 16 et 25 ans, on était d'accord avec ce verset et on le disait, il vaut mieux se marier que de brûler. Et on se disait avec un clin d'œil de connivence avec les autres gars. Hein ? Et puis, ce que Paul dit du mariage au verset 3 et 4 que nous venons de lire et qui est là sur l'écran est tout à fait révolutionnaire pour le corps, pour l'époque. Que le corps de la femme est à son mari, ça, tout le monde l'a prouvé. Le corps de la femme est à son mari. Mais ce qui est tout à fait nouveau pour les machos du monde gréco-romain de l'époque et qui ont peut-être eu du mal à l'avaler, Paul dit que le corps du mari ne lui appartient pas, mais qu'il appartient à sa femme. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Et ça, c'est révolutionnaire. Le corps du mari appartient à sa femme. Et Paul, inspiré, nous donne une vision nouvelle et très belle du mariage. Et quand il parlera de la soumission réciproque aussi au sein du mariage, dans Éphésiens 5 également, quand il demandera au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle également, et quand dans la Genèse il nous parle de la femme, enfin on nous parle dans la Bible de la femme comme étant un vis-à-vis en pleine égalité avec l'homme pour échanger et parfois même contredire, pour parler d'égal à égal, pour secourir quand l'un vient à tomber, on a une très belle vision du mariage dans la Bible. Et le texte de la Genèse, repris par Jésus et repris par Paul, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'un. Tout y est et tout est bon dans cette union de deux êtres faits pour s'entendre. Faits pour s'entendre. Tout est bon. Mais il faut quand même pas exagérer non plus. La vie de couple, si elle est bonne, possède quelques inconvénients également. Je ne vais pas vous les citer, de peur d'avoir des problèmes avec qui vous savez à la sortie du culte. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas non plus idéaliser le mariage en disant que c'est l'état idéal de tout homme et de toute femme qui serait le seul plan pour ma vie, la seule volonté de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme de cette planète. Et on est parfois dans le christianisme, dans cette idéalisation du mariage ou même de la famille, patrie, travail, bref. Et il y a une association aux États-Unis chrétienne qui s'intitule Focus on the Family. Et le mot focus est passé dans le vocabulaire français aussi. Hein. Je dois mettre mon focus sur les Jeux Olympiques, disaient les sportifs. Focus on the Family. Alors, elle a sa place, cette association, mais je me demandais si on ne se focalise pas non plus trop là-dessus. En disant que la famille est une valeur judéo-chrétienne, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit la vivre ainsi, qu'il n'y a pas d'autre alternative ? Mais Paul, bercé dans la religion juive, nourri dans la religion de la suprématie de l'homme et de l'homme marié, vous savez que pour siéger dans le Sanhédrin, dans le grand conseil juif de l'époque religieux et social en même temps, il faut être marié. Eh bien, ce Paul, converti à Jésus-Christ sur le chemin de Damas, va dire dans 1 Corinthiens 7, « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seul comme moi. Il est bon, dit Paul, de rester seul. Il est bon de se marier, il est bon de rester seul. C'est bon aussi le célibat. Qu'il soit choisi ou imposé, il parle de veuve, donc par la mort du conjoint, ou imposé pour d'autres raisons, il y a une vie devant Dieu intéressante pour les personnes seules. Elles ne sont pas du tout en dehors de la volonté de Dieu ou dans une situation d'attente en attendant de. Elles ne sont pas dans un ordre tout à fait secondaire. Non, le célibataire, la célibataire a une place, une belle place. Un peu plus loin, il parle de la disponibilité pour la personne seule, pour le Seigneur. Alors que les gens mariés sont occupés dans les affaires de couple, la personne seule a plus de disponibilité pour servir Dieu et les autres. Moi, j'ai connu une célibataire, une missionnaire américaine qui est venue dans l'église que nous implantions à Bruxelles. Et elle faisait 1m85. Elle m'en imposait. Elle était célibataire, elle était là pour une mission, mais elle s'est rendue complètement disponible pour la jeune église que nous étions dans la région bruxelloise. Et elle était chouette, elle s'appelait Randy. Et elle vivait son célibat comme une mise à disposition de ce service. Elle nous a aidés pour les vidéos dans les années 90. Là, on a fait plein de trucs avec elle. Elle était chouette, Randy. Et elle est toujours chouette. Elle était incroyablement disponible. Et c'est ce que Paul épingle comme avantage, mais il y en a certaines d'autres, une certaine liberté pour les célibataires, les personnes seules. Et je lisais un article sur le sujet, et il paraît que c'est un atout quand même apprécié par les solos, les singles. La liberté, liberté pour les petits détails de la vie, mais aussi pour les grandes décisions, liberté dans sa gestion du temps et de l'organisation de sa vie, qui permet de respecter pleinement ses goûts et ses projets de vie, et ce n'est pas rien cette liberté. On la perd pas complètement quand on est marié, mais elle est vraiment large quand on est seul. Un deuxième atout serait celui de l'indépendance, de celui qui vit seul. Il échappe ainsi aux pressions qui s'exercent inévitablement quand on vit avec quelqu'un. Pas de problème d'autorité ou de pouvoir, de personne qui cherche à dominer l'autre. Le célibataire, je cite, peut s'épanouir sans contrainte dans sa propre personnalité et dans sa foi. Oui, il y a des avantages à vivre seul. Mais il ne faut pas exagérer. Il y a aussi pour nos frères et sœurs célibataires des choses difficiles à vivre. Cette disponibilité du solo peut être utilisée par d'autres pour en abuser. Et parce qu'ils seraient célibataires et sous prétexte qu'ils ont plus de temps, on va l'accabler de toutes les tâches. Question liberté, elle est indéniable, mais elle peut aussi s'apparenter à un espace vide. Je suis libre de faire tout ce que je veux, mais cet espace paraît difficile parfois à combler. Il y a aussi la solitude à vivre, à subir parfois. Ce manque de vis-à-vis, à qui parler, avec lequel partager les petits soucis de la vie, mais aussi ce vis-à-vis comme un miroir pour se voir soi-même, une certaine insécurité dans la vie, le sentiment de n'être pas bien compris, tout à fait accepté. La vie de célibataire n'est pas sans souffrance, et nous devons y être sensibles en tant que communauté, et nous devons avouer que parfois nous ne le sommes pas assez. Si bien que beaucoup de célibataires, et on nous dit qu'ils vont être de plus en plus nombreux dans notre société, les célibataires chrétiens ont du mal à voir leur célibat comme quelque chose auquel ils sont appelés, et ils subissent leur célibat plutôt qu'autre chose. Alors que le célibat peut être perçu comme un don de la grâce. Alors, ça va loin, mais je vous cite la parole. Et au verset 7, Paul l'utilise, pour le célibat, le mot « don », charisme. charismatique, charisme, qui veut dire simplement don de grâce. Paul utilise le mot don charisme comme pour tous les autres dons spirituels dont il va parler plus tard en 1 Corinthiens 12. Et on n'est pas dans le même registre que le don de prophétie ou tous les autres dons, mais on voit dans le choix inspiré de ce mot, Paul veut mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une grâce que Dieu nous fait et qui nous accorde aussi, avec cette grâce, la force, les moyens de vivre pleinement, que ce soit le don comme mariage, le don comme célibat, qui nous accorde la grâce de le vivre pleinement, peut-être pour un temps seulement, comme les autres dons. Ce n'est pas des dons éternels, mais pendant ce temps, pendant tout ce temps à vivre, Dieu promet sa grâce et sa présence. Et donc Paul, dans le texte de 1 Corinthiens 7, renvoie dos à dos, si je peux dire, à la fois les gens mariés et les célibataires. À chacun ses avantages et ses inconvénients, à chacun son don à vivre devant Dieu et pour sa gloire. Et je crois que c'est ce que dit le verset 17 qui vient, comme dit Paul, comme une règle générale. Dans tous les cas, il est bon de s'en remettre entièrement à Dieu. Tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Alors, un petit peu comme pour le mariage, ça semble être une affirmation assez minimaliste. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était lorsqu'il a été appelé. Ne bouge pas. C'est un appel au conformisme ou à l'immobilisme. Ne bouge pas de là où tu es. Ne cherche pas à changer. Ça pourrait paraître bizarre, mais encore une fois, il faut se souvenir du contexte. Ce sont des personnes qui sont prêtes à quitter leurs épouses pour mieux vivre leur vie d'ascète, qu'ils jugent plus spirituelle, leur vie d'ascète. Et là, Paul dit non. Être chrétien dans la société corinthienne, cela ne veut pas dire changer de statut obligatoirement. Et il leur dit donc de rester dans l'état où ils sont et qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne en étant mariés ou en étant célibataires. L'idéal chrétien, ce n'est pas de se marier et d'avoir une famille. L'idéal chrétien, ce n'est pas de rester seul pour se concentrer sur le service de Dieu. L'idéal chrétien, c'est de pouvoir, là où on est, en cet instant, de pouvoir le vivre cet instant pleinement avec Dieu, par sa grâce et pour sa gloire. Dans une relation avec Dieu qui se renouvelle sans cesse et qui renouvelle sans cesse notre vision des choses de la vie et de nos relations et qui donne sens à tout ce que nous vivons. C'est ça l'idéal chrétien, ou disons la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation sociale, conjugale, professionnelle ou de santé, vivons-la à fond, avec et pour Dieu, en recherchant avant tout à lui plaire pour sa gloire et par sa grâce. Et lui plaire, ce n'est pas accomplir des exploits, c'est lui remettre nos souffrances, nos frustrations de célibataires ou de gens mariés, et aussi de divorcés, de séparés, de familles recomposées. C'est plaire à Dieu de lui confier tout cela, et aussi nos rêves, nos espoirs, nos envies de le servir dans notre situation, et même de changer de situation. Vous vous souvenez, dans le texte, il est question d'esclaves. As-tu été appelé en étant esclave ? Ne t'en inquiète pas, tu peux rester esclave et chrétien. Mais, et il rajoute, et ça c'est super, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. C'est pas de l'immobilisme, c'est de glorifier Dieu dans l'état dans lequel je suis, mais aussi d'espérer, de foncer vers un changement. On peut lui confier ses idées de changement. Dieu est glorifié quand nous lui confions notre vie tout entière. Et quand nous cherchons cela, quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, comme il est dit dans le Sermon sur la montagne, quelque part, par hasard, comme par ricochet, nous trouvons, enfin le hasard avec un grand D derrière, nous trouvons le bonheur. Le bonheur qui n'est pas, comme souvent on nous l'indique aujourd'hui, la satisfaction de tous nos désirs et de tous nos plaisirs, mais qui est d'être un petit peu plus près de ce pourquoi je suis fait. Le bonheur de me trouver un petit peu plus en adéquation avec ce que je suis vraiment, à savoir un enfant de Dieu, un homme, une femme, enfant de Dieu, qui a retrouvé la maison du Père, qui reste en relation avec le Dieu qui lui a créé, qui l'a créé et qui m'a fait grâce en Jésus-Christ et qui viendra pour me prendre avec lui dans sa gloire. Il est bon de se marier, il est bon de rester seul, mais dans toutes les situations, il est bon de la vivre pleinement devant Dieu, dans son amour, pour sa gloire et par sa grâce. Amen.